Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. Au cœur du conte du petit poucet se trouve la question du mal. Mais cette question n'est-elle pas au centre de chacun des contes? En tout cas, l'ogre du petit poucet incarne dans toute son horreur le mal. Et c'est pourquoi nous allons tenter de comprendre ce qui se joue dans ce conte qui est loin d'être innocent. Et cela en compagnie du docteur Dominique Desmichel, médecin et psychanalyste. Dominique, bonjour.
Bonjour Simon.
Alors, il arrive très souvent, prenons un exemple, il arrive très souvent que les pédophiles aient eux-mêmes été victimes de la pédophilie pendant leur enfance. Ils créent en eux une blessure véritablement jamais refermée, une vulnérabilité qui pourrait être la cause du mal. Alors, dans le cas de l'ogre, est-ce qu'on peut l'envisager de cette façon-là? L'ogre a cette blessure et il va à son tour provoquer le mal.
En tout cas, ce qui apparaît dans le conte, c'est que le petit poucé va introduire une rupture particulière. L'idée, ma proposition de lecture du petit poucé, c'est que le bûcheron et la femme du bûcheron du début, c'est le couple parental. La deuxième idée, c'est que l'ogre et la femme de l'ogre, c'est au fond le couple inconscient. Ça veut dire quoi en langage courant? Ça veut dire, à l'intérieur de nos propres parents, il y a les figures que nous connaissons, qui sont d'ailleurs, ces figures-là sont un peu éloignées de la réalité. Nos parents ne se résument pas à la perception que nous avons d'eux. Et deuxièmement, il y a quelque chose qui est plus en profondeur. Voilà, notre père, notre mère, nos grands-parents peuvent avoir des propres blessures en raison de cette vulnérabilité qui est consubstantielle à notre condition humaine. Et cette vulnérabilité peut poser des problèmes. Du côté du petit poucet, je vais partir du petit poucet. Dans l'histoire, il est abandonné par ses parents. Il va s'interroger sur pourquoi, au fond, je suis abandonné par mes parents. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va remonter, au fond, on pourrait dire, dans l'histoire de ses parents. Et dans l'histoire de ses parents, il rencontre un autre couple, qui est celui qui est dans la forêt, au fond de la forêt, c'est-à-dire le couple inconscient. Et dans ce couple inconscient, il y a un ogre et une femme d'ogre. Et d'ailleurs, c'est pas tout à fait rien que dans le couple de la réalité, du conte, bien évidemment, ça soit l'homme qui abandonne ses enfants, c'est-à-dire la figure sombre, qui est une figure plutôt maternelle, mais qui est portée ici par l'homme, renvoie à la figure sombre à l'intérieur de l'ogre. Donc, est-ce que l'ogre a une blessure? Ce qu'on peut dire, c'est que le conte ne nous en dit rien. Il ne nous en dit pas tout à fait rien, puisqu'on s'aperçoit, pour les auditeurs qui ont bien suivi, vous vous rappelez qu'il y a un petit codicille à la fin, un petit ajout à la fin du conte, qui est, on se retrouve dans un espèce de royaume en guerre. Et puis, on a vu au début une dette qui n'avait pas été payée. Donc, voilà des petits indices qui permettent de dire que dans le couple des parents, il y avait probablement une dette qui ne leur avait pas été remboursée et que dans l'imaginaire familial ou dans l'inconscient familial, il y a une guerre avec les hommes qui sont envoyés à la guerre, le roi qui est sans femme, c'est-à-dire probablement sans féminin, c'est-à-dire sans cet accès à la sensibilité. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que je dirais? Pour revenir à cette question au fond de la transmission du mal, c'est-à-dire est-ce que l'ogre est devenu ogre parce que lui-même, il avait été victime. On pourrait dire, il y a deux choses. Cette transmission de l'histoire d'une génération à l'autre, elle est extrêmement, extrêmement importante. Notre mémoire, c'est pas notre passé, c'est notre présent intérieur, c'est ce qui nous agit. On décide, vous êtes là, Simon, aujourd'hui, parce que vous êtes toute votre histoire. C'est votre histoire qui a fait que vous êtes devenu journaliste et que vous travaillez ici. Voilà, c'est mon histoire qui fait que je suis devenu ce que je suis sur le plan professionnel, sur le plan familial, en tant que père, grand-père, etc. Et puis, frère et autre chose, et enfant et tout ça. Donc, dans cette idée-là, les modalités d'intégration de notre histoire sont sur le plan psychique différentes, suivant, on va dire, trois ou quatre grandes modalités. La modalité qu'on connaît tous, c'est la modalité névrotique, la névrose, mais il y en a en gros trois autres, on pourrait dire. Il y a la psychose. La psychose, je ne vais pas en reparler, mais c'est une sorte de décalage extrêmement important par rapport à la réalité. Il y a la mélancolie, qui correspond à une sorte d'effondrement intérieur et d'impossibilité de vivre. Je ne développe pas non plus ici. Et il y en a une autre qui s'appelle la perversion. On en avait parlé déjà un tout petit peu. En gros, pour dire c'est quoi la perversion, parce que c'est ça qui est aussi posé dans la question du mal qui serait gratuit, qui serait pas un mal réponse à un autre mal, on va y revenir. Dans la perversion, l'autre est considéré comme un objet. Donc on voit bien que dans le conte du petit poucet, eh bien, l'ogre, qu'est-ce qu'il fait? Il a envie de dévorer les enfants parce que, voilà, il a l'appétit des enfants et il va aller les manger. On a vu dans le conte qu'il ne va pas les manger, mais qu'il va les abuser, c'est-à-dire au fond qu'il va les violer. C'est pour ça que, en effet, j'ai appelé l'oncle, j'ai pensé que c'était vraiment une figure de pédophile. Donc, vraisemblablement, même si le conte ne nous le dit pas, on peut penser qu'il y a quelque chose de cette transmission du mal. Et d'ailleurs, probablement l'objectif fondamental de tous les contes, c'est de nous proposer une situation inextricable. On se rappelle Blanche-Neige qui n'a pas de père et qui, en gros, qui a une mère qui ressemble à une sorcière. Comment on peut s'en sortir? Là, c'est la même chose.
Alors, ça veut dire qu'une victime d'un pédophile doit être particulièrement suivie par un psychanalyste?
Non, pas
parce
nécessairement.
Les études, ceci dit, le montrent que la plupart des pédophiles, quand même, alors je ne sais pas les proportions, mais ont été victimes. Alors, comment on réagit par rapport à ça?
Alors,
comment on se fait aider, surtout?
Bah, d'abord, la vie, de temps en temps, vous porte. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont vécu... Mais
c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation, évidemment. Ce n'est pas 100% des...
Non, même probablement. En tout cas, il y a une grande capacité à retrouver des possibilités de vivre et de possibilités de vivre de manière juste et par rapport à soi-même et par rapport aux autres. Dans la grande majorité des cas, quand les gens ont vécu une situation où il y avait de la perversion, il n'y a pas quelque chose qui a été juste factuel. Mais c'est tout un ensemble de choses. Hein. Je pourrais essayer peut-être de vous donner tout à l'heure un exemple, parce que ça permet souvent peut-être de mieux comprendre. Et puis, il y a cette capacité intrinsèque à l'humain qui s'appelle la résilience, c'est-à-dire la possibilité de trouver, et dans le monde extérieur, mais aussi surtout à l'intérieur de soi, la volonté de résister. On sait que, par exemple, les gens qui sont actifs, volontaires, décidés, qui ont une part extravertie, qui tient bien la route, ont plus de facilité que ceux qui sont plus introvertis, vont avoir du mal à créer des liens, vont avoir un tempérament un petit peu plus passif, par exemple. Voilà, Boris Cyrulnik a bien développé ces choses-là. Voilà. Donc... je dirais, dans un bon nombre de cas, on a été victime, on ne devient pas à soi-même un bourreau.
Évidemment. Voilà. Par contre, l'inverse est la plupart des bourreaux, eux, ont été victimes. Par contre, évidemment, la plupart des victimes ne deviennent pas des bourreaux, heureusement.
Voilà.
Cela étant, surtout dans les histoires de pédophilie, on voit très souvent des histoires qui ressortent après 20 ans, parce qu'il y a une espèce d'omerta sur ces drames-là, très souvent familiaux ou provoqués par des proches.
Oui, tout à
et
fait.
On voit des affaires qui ressortent, ça s'est passé il y a 20 ans, d'où la complexité aussi de rendre justice. Ça veut dire que pendant 20 ans, la justice n'a pas été faite et la blessure a probablement beaucoup plus de mal à guérir.
Oui, tout à fait. Ça ne tient pas au fait que la blessure était... Ça ne tient pas seulement au fait que la blessure était terrible. Ça tient au fait qu'il y avait un mécanisme de... on peut dire d'omerta, ou on pourrait dire de bétonnage de ça. On peut avoir de temps en temps dans la vie un accident terrible parce qu'on va se casser deux jambes et puis deux cuisses et puis trois vertèbres de cassé. En plus... dans un accident de voiture, par exemple. Mais voilà, et de temps en temps, on peut avoir une restitution, retrouver pratiquement toute sa mobilité. Voilà. Là, il y a quelque chose qui est inabordable, imparlable, indicible, inécoutable pour la majorité des gens. Et donc, ça reste enkysté à l'intérieur de soi. De temps en temps, ça reste quiescent. Et puis, de temps en temps, en effet, ça explose à l'occasion de pas grand-chose.
Alors, cette chaîne du mal, cette transmission du mal semble être sans fin. Et c'est une des raisons pour laquelle la loi du talion a été, non pas inventée, parce que j'imagine qu'elle sort des profondeurs même de l'humanité. Tout le monde la connaît, œil pour œil, dent pour dent. La loi écrite, qui est évidemment interprétée par la loi orale, et ça chez les Juifs depuis plus de 2000 ans. C'est-à-dire, tu me crèves un œil, je ne vais pas te crever un œil, mais tu vas payer une compensation pour l'œil que tu m'as crevé.
Voilà, c'est ce que juste avant qu'on commence l'émission, vous évoquiez, et je trouvais que c'était vraiment tout à fait intéressant de redonner cet exemple-là. C'est-à-dire, lorsque je suis, en raison même de ma vulnérabilité, victime de quelque chose, il est pertinent qu'il y ait une réparation. Il est juste qu'il y ait une réparation. Si j'ai été agressé, par exemple, et qu'il n'y a pas de réparation, que cette réparation soit financière ou qu'elle soit affective ou qu'elle soit symbolique, peu importe, mais qu'il y a une réparation, alors il y a quelque chose qui n'est pas juste. C'est d'ailleurs la notion, moi j'aime bien cette notion de dire que la possibilité de parler et éventuellement qu'il y a un pardon permet à la victime de revenir à cette innocence première, hein, c'est-à-dire à quelque chose qui en lui est vierge quant à la capacité à retrouver une nouvelle rencontre ou de nouvelles rencontres. Et ça se fait par l'échange, éventuellement par le pardon. C'est-à-dire, je le fais avec, je te donne parce qu'on s'est parlé, parce qu'on s'est parlé. Si on n'a pas la notion de la nécessité d'une réparation, on risque d'être dans le masochisme. Il faut bien que nos auditeurs comprennent ça. Il n'y a pas lieu, et il y a eu une dérive, il me semble, dans une forme de pensée chrétienne, et peut-être particulièrement catholique, hein, du style tu as reçu une gifle d'un côté, tends l'autre. Non, ça c'est de l'ordre du masochisme. Si on l'interprète à un niveau plus symbolique, on voit qu'il y a autre chose, c'est-à-dire il y a la nécessité de dépasser. Mais
Et de rompre aussi la chaîne du mal, quelque part.
voilà, de rompre la chaîne du mal, mais à travers une élaboration et non pas à travers le refoulement. Hein. Il y a une forme de pardon qui a été longtemps proposée, il me semble, par une certaine morale chrétienne, qui revenait à du refoulement. Et on ne va pas rentrer dans les clichés, mais on voit tous les drames que ça a pu poser du côté d'une surculpabilité impossible à travailler et à partager.
Et pourtant, on voit la difficulté de la punition qui remplace la vengeance, hein, on pourrait dire ça comme ça, par le fait de, eh bien, les victimes ne sont pas pour autant guéries. Il y a certaines détresses qui vont être inconsolables chez les victimes. C'est-à-dire que la Shoah, évidemment, on a beau avoir condamné les responsables de la Shoah, la détresse est là, le mal est fait et il est impardonnable.
Peut-être je vais reprendre un exemple très concret qui date de la consultation ce matin et d'une personne dont on a parlé. Pour faire court, en gros, cette femme venait pour des douleurs chroniques diffuses qui ressemblaient, on va dire, à des sciatiques, mais pas simplement au niveau des membres inférieurs, mais aussi au niveau des membres supérieurs, enfin avec des douleurs un petit peu partout. Et ce qui était caractéristique chez cette femme, c'est qu'elle avait eu une mère tout à fait tortionnaire qui avait au moins, on le savait, une fois essayé de l'étrangler, une fois essayé de la noyer. Donc, vous voyez, c'était quand même quelque chose d'extrêmement, extrêmement violent. Cette femme avait ensuite, à un moment de sa vie, pu rebondir en s'investissant sur le plan professionnel. Et elle était, alors qu'elle avait pratiquement pas de bagages, pas de diplôme ou pas de bagages, en tout cas universitaire, elle avait pu trouver un emploi quasi de cadre ou de cadre intermédiaire, en tout cas. Et puis elle était tombée sur un N plus 1 qui était probablement un sadique, voilà, ou peut-être qu'il y avait une pression au-dessus. Et à ce moment-là, elle s'était effondrée et tout s'était cassé la figure avec une dépression profonde. Elle avait été accompagnée pendant très très longtemps, en l'occurrence 5 ans, par une psychologue, psychométricienne. Et puis les choses s'étaient à peu près stabilisées. Et puis cet accompagnement s'est arrêté. Et à ce moment-là, de nouveau, ça n'allait pas bien avec une réapparition de toutes ses douleurs et puis de son syndrome dépressif. Donc là, vous voyez, en effet, ça va bien dans l'idée que de temps en temps, dans cette vulnérabilité profonde qui est la nôtre, eh bien, il y a des blessures qui ne cicatrisent pas.
Cela étant, justice n'avait peut-être pas été rendue dans le cas de cette patiente.
Alors
Parce que la justice a quand même ce rôle
tout à fait, tout à fait.
d'essayer au moins de tenter le deuil de quelque chose, la guérison.
Alors,
Mais c'est pas toujours facile, évidemment,
on pourrait revenir sur la question du deuil. Je dirais, du côté de la justice, il y a au fond, trois niveaux, je dirais. Du côté de son N plus 1 au travail, si, il avait été sanctionné, d'ailleurs, voilà, il y avait eu une plainte. C'était pas d'ailleurs elle qui avait donné posé la plainte au départ, mais il y avait eu d'autres plaintes, il avait été sanctionné, donc justice lui avait été rendue, mais pour elle, c'était en tout cas trop tard. Deuxième chose, justice par rapport à la mère, non, bien évidemment, il ne s'était rien passé, la mère est décédée depuis longtemps, d'autant plus que le rapport que les enfants ont avec leurs parents est toujours un rapport complexe. Ce n'est pas juste un employeur où on peut se dire ben, « je change d'emploi » ou « j'envoie l'employeur en prison » où il se fait renvoyer de la structure. La mère, c'est aussi celle qui a donné la vie. Et donc, c'est toujours très, très compliqué. En gros, c'est extrêmement difficile de pouvoir symboliquement tuer sa mère parce qu'en même temps, c'est tuer quelqu'un qui vous a donné la vie. Hein. Donc, voilà. Troisième point, ce qui se passe, c'est que la structuration à l'intérieur de soi-même d'image qui vous donne une sécurité intérieure, une vraie sécurité. On voit ça chez l'enfant quand il est capable de jouer tout seul, quand son père ou sa mère sont dans la pièce à côté. Pendant un certain temps, il ne peut pas. Puis après, en grandissant, il suffit qu'il entende le parent à côté qui fait du bruit, ou à l'étage au-dessus, ou à l'étage en dessous. Ça suffit, il intériorise quelque chose de positif en lui. Et par exemple, chez cette femme, lorsque les parents sont trop terrifiants, alors il n'y a pas d'intériorisation possible. Et donc, c'est comme si cette vulnérabilité était toujours à fleur de peau. Voilà, la peau était d'une telle fragilité que la moindre petite chose entraîne une blessure. Je rappelle que vulnérabilité, ça vient de vulnus en latin, et vulnus, c'est la blessure.
Alors, difficulté à rompre cette chaîne du mal, complexité à rendre justice, il est peut-être temps d'aller voir du côté du petit poussé, parce que lui, eh bien, le comte nous le dit, et il parvient à rompre justement cette chaîne du mal et à en sortir. Et pour cela, la liberté, le libre arbitre, la liberté de faire le bien, comme de faire le mal d'ailleurs, mais la liberté de faire le bien, c'est évidemment quelque chose de fondamental.
Alors, je crois que c'est important d'abord de définir la liberté, et il me semble, évidemment je reprends ce que beaucoup de philosophes ont dit bien mieux que moi avant, la liberté, c'est pas « je fais ce que je veux ». Faire ce que je veux, c'est obéir à mes pulsions. Et ça, à mon avis, ce n'est pas une vraie liberté, puisqu'au fond, on est assujetti à ces pulsions. Donc, je pense que la liberté, c'est la possibilité de faire ce que l'on veut, à condition que ce que l'on fait soit en conformité avec une loi qu'on s'est librement choisie. Donc, cette liberté intrinsèque implique, en effet, de pouvoir choisir. On retrouve ça dans le texte de la Genèse, avec la possibilité d'accéder au bien et au mal. Donc, de pouvoir faire le bien et faire le mal. Et c'est en effet bien important de se dire que le corollaire de cette liberté, c'est la possibilité de faire le mal, c'est-à-dire, dans le langage courant, on dirait, c'est de ne pas se conformer aux grandes lois morales. Je rappelle que ces deux grandes lois morales sont le respect et la bienveillance. Hein. Peut-être je redis, peut-être je l'ai déjà dit, mais c'est très important de penser ça, si les auditeurs se rappellent ces petites choses. Vraiment, je trouve que ça aide beaucoup dans la vie. Hein. Le respect, c'est le respect de l'autre. La bienveillance, c'est je vais tâcher de veiller de manière bonne pour lui. On retrouve la notion du bien ici, hein, bienveillance. Mais il n'y a pas de respect sans bienveillance, il n'y a pas de bienveillance sans respect, parce que je pourrais respecter l'autre. Mais s'il est au bord de la fenêtre et qu'il a envie de sauter par la fenêtre, alors la bienveillance est plus importante que le respect. Et je ne vais pas respecter son désir et je vais être bienveillant. Je vais le saisir, le ramener à l'intérieur de la maison et lui dire on va essayer de réfléchir pour voir s'il est possible de faire quelque chose. Et la bienveillance n'est pas absolue parce que la bienveillance pourrait me laisser penser que je sais mieux que l'autre pour lui. Et donc, au nom de la bienveillance, je vais te dire ce qu'il faut que tu fasses. Eh bien non, le respect de l'autre, c'est... Je pense que c'est mieux pour lui qu'il fasse ça, mais je respecte son désir. Donc, vous voyez, hein, cette notion du bien et du mal, et en particulier la notion du bien, repose sur ces deux grands piliers du respect et la bienveillance, qui sont, j'allais dire, en tension souvent permanente.
Alors, liberté égale choix, et choix, j'ai envie de dire, égale embarras. Ça serait peut-être plus simple de se faire dicter toutes ses conduites, et puis de ne pas avoir à faire de choix, finalement. Si on se fait dicter notre conduite par quelqu'un d'éclairé, évidemment.
Voilà, alors ça rappelle le petit passage des frères Karamazov, ce livre de Dostoïevski, que j'ai relu, enfin je dirais réécouté, puisque c'était une forme enregistrée, récemment. Et il y a un des trois frères, là, Ivan, qui demande à son frère comment un dieu ou un homme pourrait trouver une raison valable au mal qui serait infligé, au fond, à un enfant innocent par une sorte d'adulte qui serait sadique ou pervers. Et Dostoïevski dit que lui, il va rendre son billet si cela peut être justifié. Mais on retrouve un petit peu plus loin dans le texte, parce que ça, c'est peut-être à peu près au milieu, plus loin, il y a un petit passage où un des frères raconte que le Christ revient sur terre. Et en revenant sur terre, il commence un petit peu à faire peut-être comme le Christ, en tout cas ce qu'on en sait. Et le grand inquisiteur, le grand maître de la loi, le fait immédiatement arrêter. Et il lui dit quoi ? Il lui dit « L'homme sans liberté est plus heureux que l'homme libre ». Le Christ, finalement, là, il a fait don aux hommes de la liberté, mais c'est un don trop lourd pour eux. Au fond, ça ne les pousse, dit le grand inquisiteur, qu'au désarroi et au trouble. Et j'aurais envie, je sais bien dans quel type de radio on est ici, mais de rappeler quand même que, pour moi, fondamentalement, il n'y a pas de morale évangélique, c'est-à-dire il n'y a pas un ensemble de prétextes, de préceptes qui viendraient dire comment il faut se comporter. Il y a une incitation à cette réflexion. Donc, la liberté, c'est une épreuve. La liberté, c'est une tension. La liberté, c'est quelque chose qui n'est pas facile à porter. Donc là, on voit bien que l'inquisiteur est dans une position, on pourrait dire dictatoriale, pour ne pas dire fasciste, qui est celui qui, justement, au nom même d'une certaine forme de bienveillance, dirait « je sais ce qui est bon pour toi ». Tu obéis et il n'y aura pas de problème.
Alors c'est une réflexion, avez-vous dit, et ce qui est fort dommage pour le choix et les libertés, c'est que des individus comme l'ogre ne réfléchissent pas. Ils ont tendance à suivre leurs pulsions. Et tout le problème est là.
Et ?
Tout le problème est là.
Oui, alors...
En ce qui concerne le problème du mal, évidemment.
Oui. En tout cas, c'est bien important d'abord de penser que les pulsions... C'est pas que du négatif. Hein. Les pulsions, c'est quelque chose qui nous agit à l'intérieur de nous-mêmes. Freud, il a appelé ça le ça. Hein. Pourquoi il a appelé ça le ça ? Parce que c'est juste dans le langage courant, c'est ça me plaît, ça m'attire, ça m'intéresse. Ou de manière négative, c'est ça m'agace, ça m'énerve, ça m'emmerde, ça, voilà, tout ça. Ça veut dire je sais pas très très bien d'où ça vient, mais ça a un effet sur moi. Et je rappelle à ce propos-là que on n'est jamais responsable des sentiments qui viennent à l'intérieur de soi, on est responsable de ce qu'on en fait. Voilà. D'où, en effet, cette question de l'apprentissage chez l'enfant d'une loi morale. Et cette loi morale n'est pas faite pour lui donner un ensemble d'interdits, mais pour, normalement, en tout cas idéalement, pour lui apprendre à discerner ce qui va être juste ou ce qui ne va pas être juste. Et évidemment, ça renvoie à la question du bien et du mal.
Je pense à des tueurs en série comme Louis ou Michel Fourniret, mais Louis plutôt, lui qui le boucher de Lyon, qui était vraiment poussé par des pulsions incontrôlables. Là, évidemment, il y a absence de dialogue intérieur, il y a absence de réflexion, d'où la question du mal.
Je connais pas du tout de l'intérieur ces histoires, mais on pourrait imaginer que, parce que une des caractéristiques au fond du pervers aussi, hein, parce que là il y aurait quelque chose de pervers, c'est que l'autre n'est pas considéré comme une personne et il est considéré comme un objet. Donc voilà, mon stylo ici ne marche plus, ou du coup il écrit noir et j'aimerais écrire en bleu, je peux décider de le jeter. On va pas me dire c'est pas très très respectueux vis-à-vis du stylo. On peut penser que sur le plan boum c'est le stylo qui tombe. Sur le plan écologique c'est un petit peu du gaspillage, mais ça sera par rapport à la globalité de l'humanité par rapport au stylo. Tandis que pour le pervers il y a quelque chose de ce lien d'objet, ce qui fait qu'il n'y a pas de sentiment de culpabilité. Hein. Donc probablement lui il disait c'était mon désir. Oui, mais en gros, ce que vous faites, ça ne se fait pas. Hein. Voilà, moi, mes petits-enfants, ils me disent de temps en temps, ça ne se fait pas. Ça se fait pas. On voit bien que même au cœur du ça, c'est-à-dire au cœur de la pulsion, il y a la nécessité qu'il y ait une régulation. Alors, et ça, c'est l'apprentissage du bien et du mal.
Il y a donc absence de dialogue intérieur. Qu'est-ce qu'on entend par dialogue intérieur ?
Je crois que la pluralité des personnages à l'intérieur de nous-mêmes, c'est la condition première de notre position éthique, c'est-à-dire de notre réflexion. Je préfère dire éthique plutôt que morale. Un tout petit mot là en passant. La morale, globalement, enfin, il me semble que ça peut être intéressant de le penser comme ça, c'est d'abord et avant tout un ensemble d'interdits. Et d'ailleurs, quand on se rappelle les 10 commandements, je ne sais pas à quelque chose près, mais je crois que dans les 10, il y en a 8, ou en tout cas au moins 7 qui sont des interdits. et deux ou peut-être trois qui sont des éléments positifs. Donc la morale repose essentiellement sur des interdits, tandis que l'éthique repose sur une pratique du questionnement. Donc je reviens à la question du dialogue intérieur. Je pense que ce qui est important pour le bien et le mal, c'est de pouvoir réfléchir à l'intérieur de soi et en particulier de penser contre soi. Et pour reprendre l'exemple que vous donniez tout à l'heure, le pervers, il ne sait pas penser. Il n'a jamais eu ou il n'a plus ce dialogue intérieur qui l'inviterait ou lui imposerait même de répondre à la question « Mais quelle est la valeur de ce que je fais ?» Pour lui, il n'y a pas d'autre. Il ne peut pas intégrer du tout la place ou la position de l'autre. Alors Kant, il parlait d'une espèce de penchant naturel au mal, dès lors que l'on a perdu ce lien intérieur et qu'on fait passer uniquement ses intérêts propres, avant en tout cas la loi de la morale universelle. C'est très important de se dire que cette position éthique est une position complexe, est une position de tension, comme on l'a rappelé tout à l'heure, par exemple, entre bienveillance et respect. Premier point. Deuxième point, c'est Camus qui dit à un certain moment « Le kantisme a les mains pures, et il met trois petits points, mais il n'a pas de main. Hein ». Et j'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle vient dire aussi que dans les choix éthiques que l'on fait dans notre vie, c'est rarement le bien est là, le mal est là, et c'est aussi simple que ça. Non, de temps en temps, ou même relativement souvent, c'est compliqué. Mais je crois que cette capacité d'évaluation affective intérieure, elle est tout à fait essentielle et elle dépend de la connaissance que chacun a de soi-même et de là où il vient. Hein. Je dis souvent ça, si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Je crois que c'est important. Donc je pense que sans intériorité, sans travail avec sa propre intériorité, il n'est pas possible de saisir l'extériorité et bien évidemment encore moins l'intériorité de l'autre. Donc la violence pédophile de l'ogre, c'est une sorte de jouissance pure qui est une absence d'intériorité ou en tout cas une sorte de jouissance personnelle complètement isolée, sans altérité, sans extériorité, sans autre. Et ça amène toujours à la mort.
Docteur Dominique Desmichel, malheureusement, notre émission touche à sa fin. Je vous propose de nous retrouver dans 15 jours afin d'approfondir cette question de l'intériorité et puis peut-être de la culpabilité et du remords chez les agresseurs.
Ok, merci Simon. Au revoir. Lord, I'm traveling on for Jesus, night and day, let me tell you I'm traveling on for Jesus, night and day. On your mind, sure a good friend's hard to find, Lord, telling you everybody will be your friend. Dear my mama, now she's dying, Lord, these many years ago. Home to